21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour vous proposer le compte-rendu de la 9e édition de la Fête du Livre de Saulieu qui s'est tenue les 29 et 30 octobre dernier. Cette année, les organisateurs du Salon du Livre de Saulieu avaient choisi comme invité d'honneur Bernadette Després. Bernadette Després est l'illustratrice depuis 1976 de la célèbre série de J'aime lire, Tom Tom et Nana. Et c'est donc avec elle que nous allons ouvrir notre série de reportages. Voici donc Bernadette Després, 75 ans, qui revient sur ses débuts d'illustratrice pour les journaux de Bayard Presse, puis sur les origines de Tom Tom et Nana. Bernadette Després.
Tom Tom et Nana, avant de faire Tom Tom et Nana, qui a commencé en 76-77, premier J'aime lire est sorti en 77, et ben avant, je travaillais pour des maisons d'édition, d'autres, où j'ai, une autre où j'ai rencontré Jacqueline Cohen, qui est la scénariste principale de Tom Tom et Nana. Et comme moi, je travaillais depuis très longtemps déjà à Bayard, c'est à moi qu'on a dit... Est-ce que tu veux, on va lancer un journal qui va s'appeler J'aime lire, est-ce que tu veux faire une bande dessinée de 20 pages ? 20 pages, je pense que c'est vraiment beaucoup. Hein. De toute façon, moi, je ne sais pas inventer les histoires. Vous l'avez déjà vu que c'est quelquefois, je fais des loupés. Hein. Bon, j'inventais pour Pomme d'Api des histoires, mais ça avait 4 cases, hein, alors ça suffisait. Hein. Bon, mais 10 pages, bon. Et il fallait pas que... Bon, alors, d'accord, comme je connaissais Jacqueline, avec elle, dans une autre maison d'édition, on avait inventé des livres-jeux sur ma rue, les commerçants, ma ville à l'envers. On avait inventé plein de jeux, plein de trucs, et c'était quand même le commerce, la vie. Donc, quand on s'est mis à démarrer cette bande dessinée ensemble, on a très vite trouvé que c'était très, très bien de choisir un petit restaurant où toute la famille habite. Le père est cuisinier, la mère tient la caisse, il y a celui qui fait la vaisselle, il y a celui qui sert. Et Tom Tom et Nana sont là-dedans à plein, où ils vont me foutre la pagaille, un peu, de temps en temps, même s'ils veulent aider.
Mais... Qui vous a inspiré Tom Tom et Nana ?
Toutes les deux. On s'est dit, il faut qu'il y ait deux enfants, il faut que ça soit dans une petite rue commerçante aujourd'hui.
Certes, mais y avait-il des modèles vivants ?
Ah non, non, moi j'avais l'habitude de dessiner. Alors, j'avais, même dans les livres que j'avais fait avec elle, il y avait quelque chose qui ressemblait déjà un petit peu à Tom Tom. Mais enfin, puis moi j'ai des enfants aussi. Alors, plus tard j'ai bien vu que Tom Tom. Enfin, je fabriquais mes enfants, mais je fabriquais aussi mes dessins. Alors tout ça, ça va ensemble. Voilà.
Alors combien d'albums finalement ?
Maintenant il y en a 34, plus tous les best-of qui sortent là. Les best-of sont des livres qui sont où on réunit des histoires qui vont bien ensemble, mais qui sont déjà un petit peu parues avant. Ouais.
Alors, quel regard jetez-vous sur la bande dessinée actuelle, notamment pour le très jeune public ? On a l'impression que c'est beaucoup moins élégant, c'est esthétiquement moins beau, c'est le triomphe du manga, on
Merci
est loin...
Merci de me dire ça, c'est pas beau ce que je fais, je suis d'accord.
Hein. Ah non, j'ai pas dit que ce que vous faisiez n'était pas beau, je dis que ce que l'on voit maintenant, ça me semble nettement moins élégant.
Ah bon ?
Que ce que vous faites, Tom Tom et Nana, c'est la fraîcheur, c'est mignon, c'est assez réaliste d'une certaine manière.
Oui,
alors que ce que l'on voit maintenant pour le jeune public, c'est un peu, j'allais dire, toute une parade de monstres, de personnages étranges.
Mais nous aussi, on en a dessiné des monstres un peu. Vous voulez voir ce qu'il y a là-dedans ?
Non ? Ah oui, à la fin, il y a quelques petits... Mais j'ai des petites souris, des petits fantômes.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont très... ils aiment beaucoup un peu le fantastique. Et comme je vais de temps en temps, moi, dans des écoles où ils ont inventé une histoire, une fois, ils avaient inventé une histoire avec un zombie. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un zombie, moi.
Vous savez,
ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'on tape sur l'ordinateur... Hein. On n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque du coin ou d'aller demander dans une librairie s'il y a des zombies. On tape sur l'ordinateur, on sait tout de suite comment c'est un zombie. Bon, ben voilà,
je me suis... Donc Tom Tom et Nana ne jouent pas à la tablette, ne font pas de jeux vidéo.
Si, cette fois-là, ils avaient... Si. Dans toutes les histoires de Tom Tom et Nana, il y a eu la progression du modernisme. l'ordinateur. Et vous savez, l'ordinateur, d'ailleurs, on peut dire que quelquefois les enfants se débrouillent très vite, beaucoup mieux que les parents, avec l'ordinateur, ou avec le style jeu, style tout ça. Et justement, l'ordinateur étant arrivé dans le restaurant du Bouchon, Monsieur Dubouchon a été furieux parce que Tom Tom et Nana s'en sortaient mieux que lui. Voilà. Ben, moi, c'est du vécu, tout ça. Parce que chez moi, c'était un peu comme ça aussi.
Bernadette Després, je vais vous laisser un peu à votre public parce qu'il y a une sacrée file d'attente là. Vous n'arrêtez pas. Hein. Vous dessinez, vous avez un seau, un tampon, Tom Tom et Nana. Quelle consécration ?
Bof. Bon, vous avez 40 ans de... Il y a eu toutes les générations qui sont passées, donc... Vous savez, bof.
Comment dois-je comprendre ce bof ?
Je fais ce que je peux, moi, c'est tout. En fait, je suis très naturelle, quoi. Voilà. Je reste dans... Vous avez dit, mon dessin, il reste naturel. J'étais habituée à dessiner d'une façon un peu naturelle, avec un petit sens comique, quand même, parce que, voilà, le sens comique, de quoi il me vient ? Ben, de Bécassine, et puis tous les trucs qui ont été comiques dans notre enfance. Vous allez m'en dire, non ?
Je ne sais pas si nos enfants sont de la même époque.
Ah, attendez, oui, ils ne sont pas de la même époque, mais Bécassine, vous voyez, il y a un petit sens réaliste et en même temps un peu comique, et avec un côté moqueur. Et ben, moi, je l'ai, ça, en moi, hein. Même si les histoires m'ont amené un peu à ça, parce que Jacqueline... ils ont été d'accord, enfin Jacqueline avec d'autres, pour faire ressortir ce côté un peu moqueur, même vis-à-vis des parents. Ça, même vis-à-vis des enfants. Les enfants, quand ils disent, ils croient toujours que c'est les enfants qui font beaucoup de bêtises. Mais il n'y a pas que ce regard-là, il y a le regard aussi de ce qu'on voit des parents. D'ailleurs, un des best-of, c'est les parents. Mes parents déraillent. Aïe, mes parents déraillent. Ben là, il est typique. Il est typique d'une moquerie envers les parents. Et là, ils sont obligés de le remarquer. Mais j'ai pas toujours l'impression que quand ils ont 8 ans, 9 ans, un peu plus jeunes, ils voient véritablement qu'on se moque un petit peu des adultes. Et pourtant, c'est ça qui est derrière. Pour moi, c'est très important. Hein. Vous savez, un ras-le-bol d'avoir eu des parents un peu sévères, hein, ou qui se met en colère. Bon, bah forcément, on a besoin de se moquer de ça un petit peu. C'est peut-être ça qui leur plaît pour finir. Du moins, pour ceux qui ont lu ça quand ils étaient petits, comme vous, par exemple, du coup, vous le remarquez, ça, qu'il y a une moquerie envers un peu les adultes. Hein. Oh, Madame, quelle mère, quelle empoisonneuse. Et Monsieur Dubouchon qui dit... Ouais, quelle cinglée celle-là, ou je sais plus ce qu'il dit. C'est ça, c'est un langage naturel de parents. Et on a envie de s'en moquer un petit peu, ou on le voit, on l'entend.
À l'instant, c'était Bernadette Després, l'illustratrice de la série Tom Tom et Nana, plus de 30 volumes à ce jour, que l'on peut se procurer en librairie aux éditions Bayard. Juste après un petit détour en chanson, nous tendrons notre micro à Jean-Luc Philippe Tess pour évoquer la saga Jeune Public qui a pour titre la saga Synonyme, plus de 15 romans à ce jour et plus de 17 000 lecteurs. Merci de rester en notre compagnie sur Radion, c'est Wagon Livre. Et nous sommes ensemble ce mercredi jusqu'à 22h.
It's everywhere. was sliding without noticing our own plan. Headed deep down, we hang on tight, sweet nothing left behind. We hang on tight, 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 we hang on tight.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Compte rendu de la 9e fête du livre de Saulieu qui s'est tenue les 29 et 30 octobre dernier, avec cette fois à notre micro Jean-Luc Philippe Tess, co-auteur avec sa compagne Catherine des romans constituant la saga Synonyme, plus de 15 romans d'ailleurs à ce jour. Une saga qui mêle habilement tous les ingrédients qui séduisent le jeune public, aventure, fantastique, polar, thriller, légende, et une saga qui, et c'est rare par les temps qui courent, qui veille à bannir la violence. Sans plus tarder, faisons connaissance avec son auteur, Jean-Luc Philippe Tess, à notre micro. C'était le 30 octobre dernier à Saulieu.
Alors en fait, nous en sommes à notre 15e opus, Yannick, et le fer de lance de cette affaire, c'est une famille, Charlotte, Philippe, Camille, Lucas et Martin, les trois enfants et le drôle de chat qui accompagne sans trop le montrer. Et dans tous mes romans, il y avait toujours un clin d'œil, regardez le site Patchwork Volant, il y avait toujours un clin d'œil à Catherine, le patchwork, la passion du tissu, et puis moi, la passion de l'aéronautique avec un vieil hélicoptère qui était rapiécé de partout, qui s'appelait le Patchwork Volant, ça ne va pas s'inventer. Et en fait, les lecteurs nous écrivaient de façon récurrente en nous demandant qui était, à quoi ressemblait pardon, ce patchwork de tissu, alors qu'ils avaient l'impression de connaître le patchwork métallique et volant. Et donc Catherine, eh bien, a voulu répondre par la favorable à cette demande, surtout que dans mon intrigue, eh bien, un patchwork était dérobé dans un musée. En fait, c'était une carte de navigation qui devait résister au temps et à l'espace. Et le chat, encore le chat, adorait se reposer dessus. Donc un brin barré, un brin atypique, un brin drôle, j'adore. Et l'humour et l'intrigue, ce sont mes nos fers de lance, je me répète. Et pour vous répondre, Yannick, c'est un petit peu la raison pour laquelle le patchwork arrive souvent dans notre littérature.
Alors passons à l'autre, alors ça c'est de vous cette fois-ci, ah, oui, autre oui, roman, autre, c'est oui. Une nouveauté, oui. Improbable rédemption à Annette Ciboulette-les-Foix.
Alors nous sommes dans un lieu hautement culinaire ici à Saulieu, et j'ai imaginé que dans un processus de, comment dirais-je, de dérèglement climatique, on a affaire à un petit village qui a perdu toute technologie, et dans un restaurant de haut lieu, de haute fréquentation, eh bien, depuis, le dernier décideur en date, eh bien, a l'idée de remonter ce petit restaurant qui était tombé dans l'abandon de par les événements climatiques et de nourrir les populations avec des choses naturelles. Je suis très attaché à, comment dire, aux bonnes vertus de la santé dans l'assiette. Et donc, le bon gibier, les vertus des plantes vertes et les fruits rouges, l'eau filtrée, les bonnes choses. Et dans ce restaurant, qui s'appelle, dans le village, pardon, qui s'appelle Annette Ciboulette les Foix, donc les condiments que vous connaissez, et puis les foix pour à la fois la victuaille, mais aussi d'avoir peur, parce qu'il fallait quand même l'ingrédient, hein, dans tous les sens du terme, eh bien, on a imaginé une immense intrigue où une jeune femme allait disparaître le premier jour de son enquête, et elle est rattrapée et conditionnée et aidée dans ses investigations par un drôle de matou. Voilà, un petit peu.
Encore une histoire.
Encore le chat.
Omniprésent, le chat. Alors, le chat, on va le retrouver encore dans Lucas Synonyme ou les mémoires d'un adolescent pas vraiment sage. C'est oui. Toujours de vous, c'est aux éditions du Ver Luisant, Jean-Luc Philippe Thèse. De quoi s'agit-il? Quelle est l'intrigue de ce roman?
Alors, Yannick, pour être franc, c'est une nouveauté. Vous savez, quand vous écrivez 15 romans pour une saga, il y a un calage. Je pense qu'on peut être le plus attentionné possible à faire de belles histoires dans lesquelles je bannis le glauque, d'ailleurs le vulgaire, et je n'aime pas la violence. Au contraire, j'aime bien y mettre de l'humour et de l'intrigue à tous les étages. Au bout de 15 romans, j'avais vraiment envie de ressortir cette saga. J'avais vraiment envie de travailler différemment et surtout de coller des bouts que j'avais amalgamés depuis 15 ans, parce que 15 romans, 15 ans de travail. Et là, il est question du patchwork volant, cher Yannick. C'est-à-dire que là, c'est l'histoire du premier pilote de ce vieil hélicoptère qui rapiécé de partout, Camille, qui n'a que 14 ans, qui va découvrir les joies, non pas de la manette de jeu, il est féru de l'affaire. Et là, pour la première fois, il passe du simulateur de vol de jeu à, en fait, au vrai pilotage, grâce à un espèce de vieux mentor dans une campagne isolée. Et tout commence, c'est que Camille devient un pilote d'exception, c'est une fiction, j'insiste, hein, et son frère devient le dernier président de tous les temps dans cette situation où ensuite il y aura l'enquête dans ce petit restaurant et où le patchwork disparaîtra du dernier musée qui existe. Et donc tout est lié et j'ai adoré y mettre beaucoup de recul. Et mes lecteurs anciens lisent à nouveau cette saga parce qu'ils aiment bien quelque part l'approche un petit peu différente et nouvelle, où le chat existe toujours, le patchwork, qu'il soit métallique ou qu'il soit tissu, existe. Et puis, on a plus de 20 000 lecteurs. Là, on change d'édition. On va travailler avec un grand éditeur national qui est présent à Saulieu. Mais par discrétion, on ne va pas encore en parler, puisque l'année prochaine, si je suis encore à Saulieu, j'en bafouille, je serai à ses côtés. Mais c'est du plaisir parce qu'on est suivi et puis on est encouragé. Et puis vous, Yannick, vous voyez, les médias, on a besoin de vous, on a besoin des organisateurs de salons et puis de belles rencontres comme à Saulieu, et c'est l'exemple idéal.
Merci Jean-Luc pour toutes ces explications. Un petit rappel quand même, si on veut aller vous rencontrer via Internet, rappelez-nous l'adresse du site.
Alors important, oui tout à fait, parce que le site c'est patchwork, P-A-T-C-H-W-O-R-K, point volant, V-O-L-A-N-T comme un personnel volant, et point free, l'opérateur, point fr, et vous verrez un petit peu nos nouveautés, nos lecteurs qui nous suivent. Et puis en plus, on laisse les courriers des lecteurs dans leur jus, comme on dit, c'est-à-dire on a autant d'enfants, de parents, et on a souvent beaucoup de courriers plus que positifs et favorables parce que la saga, le chat, la preuve ce matin encore, hein, j'ai rencontré beaucoup de gens qui adorent les chats et qui aiment bien les belles histoires et ils nous suivent. Voilà, merci de nous en faire parler avec plaisir, Yannick.
Merci Jean-Luc. Je vous encourage à aller découvrir le site consacré à tous les romans de la saga Synonyme en pianotant via Internet, patchwork.volant.free.fr. C'était Jean-Luc Philippe Thèse à l'instant à notre micro. Juste après la pause musicale, vous en saurez un peu plus sur l'Académie du Morvan, fondée en 1967 et qui a pour but de constituer un centre intellectuel et culturel et qui vise aussi à donner une âme au Morvan. L'Académie du Morvan fait régulièrement paraître des bulletins qui visent à l'inédit et à la variété des sujets et encourage l'édition de travaux neufs sur le Morvan. On en reparle juste après la pause musicale que nous vous proposons. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Bon vent viendra chasser les mauvais tours, les printemps viendront balayer les mauvais jours. Je sais bien qu'il y a pire et qu'il y a mieux que moi, mais au-delà de nos soupirs, et bien au-delà, c'est bien peu de le dire. Oui, mais moi j'y crois. Je demande à ton sourire de se tenir près, car le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Le bon vent viendra chasser les mauvais tours. Les printemps viendront balayer les mauvais jours. Tous ces gens que l'on devine, débordant de tout, tous ces gens qu'on imagine plus heureux que nous.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Comme convenu ce soir pour ce compte-rendu du Salon du Livre de Saulieu, nous allons évoquer l'Académie du Morvan avec Liliane Pinard, que nous avons rencontrée à la 9e fête du Livre de Saulieu, le 30 octobre dernier. Alors avant de nous présenter l'Académie du Morvan, faisons dans un premier temps connaissance avec Liliane Pinard.
Eh bien, je suis de très vieilles racines morvandelles, plusieurs siècles, bien qu'ayant immigré pour suivre mes études et tout, bien entendu. J'ai fait ma carrière d'enseignante à Autun, toute ma carrière de 69 à 2005. Et donc maintenant, je suis en retraite, évidemment. Et je suis entré à l'Académie du Morvan, ça devait être en 1998. L'Académie était formée depuis 1967. Et depuis, bon, personnellement, j'ai fait pas mal d'articles, de bulletins pour l'Académie, entre autres. Dans le dernier, il y a un article signé Liliane Pinard, hein, le dernier a quatre articles, dont un sur ma création. Donc, pour l'Académie du Morvan a été fondée en 1967 par Henri Perruchot, Joseph Pasquet et François Mitterrand. Son siège est à Château-Chinon. Actuellement, on a un local qui est au-dessus de la médiathèque, au centre Condorcet. On essaie d'assurer tant bien que mal des permanences le mercredi de 10 à 12. Notre gros problème, c'est le bénévolat, évidemment. Et l'Académie a pour mission, à l'origine, elle avait pour mission donc de couvrir toutes les questions relatives au Morvan. C'est toujours sa vocation, mais depuis la création de Bibracte, par exemple, pour l'archéologie, on a maintenant Bibracte qui fait mieux que nous. Également pour tout ce qui est de la nature, tout ça, il y a maintenant le parc. Il n'en reste pas moins qu'on a beaucoup de sujets encore à aborder et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'études à faire sur le Morvan dans des domaines qui sont parfois assez pointus et sur lesquels on ne sait presque rien ou qui n'ont pas été publicisés. Donc l'Académie, dans ce sens, publie des bulletins. En principe, on arrive à en publier deux par an. Les dates sont approximatives vers le mois de juin et l'autre vers la fin de l'année. Parfois, il y a des petits décalages, c'est pas grave. Et puis, en plus, elle organise des sorties qui sont accessibles à ses membres et aussi aux invités, éventuellement de ses adhérents qui sont intéressés par les sorties. La dernière sortie a eu lieu dans Lyon, à Noyers-sur-Serein et Montréal. On a fait des sorties, je crois, il y a deux ans, à Bibracte, très intéressant. On a visité les nouvelles fouilles. On a fait des sorties récemment à Arcy-sur-Cure, etc. On essaie de diversifier un petit peu, mais sans sortir vraiment des limites, disons, proches de la Bourgogne, parce que faire des sorties de trop loin, c'est demander une organisation qui est un petit peu difficile sur plusieurs jours. Donc on essaie d'organiser en une journée. Et puis, bien sûr... En tant qu'association 1901, on tient une réunion par an, l'Assemblée Générale, en juillet. Et puis, on a un conseil d'administration qui se réunit régulièrement, à peu près tous les trois mois. Mais ça, c'est statutaire, c'est commun pratiquement à toutes les sociétés 1901. Ceci étant dit, bon, on a, je ne sais plus, pas loin de 300 adhérents. On a reçu d'ailleurs des demandes d'adhésion encore récemment. Ce qui nous manque, donc, outre le bénévolat, c'est un caractère qu'on retrouve dans d'autres associations de notre genre, c'est que l'âge moyen est relativement élevé. Il y a beaucoup de retraités, peut-être parce qu'ils ont plus de disponibilité aussi. Moi, je connais des jeunes d'une quarantaine d'années qui seraient très intéressés, mais qui travaillent, qui sont ailleurs, qui sont à Paris ou dans d'autres villes, qui ont aussi une vie privée. D'ailleurs, il faut penser à ça. Et donc qui sont adhérents, mais qui ne participent pas, pour l'instant en tout cas, activement à la vie de l'Académie. Donc ce sont les principaux caractères de cette Académie du Morvan, si vous voulez. Finalement, elle a assez bien fonctionné depuis sa création, depuis 1967. Alors évidemment, il y a peut-être des aménagements à faire encore. Par exemple, on a été obligé de s'équiper en informatique. Donc on n'a pas toujours sous la main des informaticiens formés. Bon, heureusement, on a une retraitée qui s'y connaît à peu près. Bon, il faut qu'on se mette donc au goût du jour. Bon, le rajeunissement, on a aussi des petites questions statutaires, en particulier sur la qualité des adhérents. On a encore deux catégories, donc ça, c'est un débat qui dure depuis quelques années à l'Académie, qui n'est pas encore tranché totalement. Mais je pense que globalement, on a un bilan qui a été assez positif. Nos bulletins se sont beaucoup renouvelés avec une thématique très différenciée. Hein. On ne fait pas toujours la même chose. Et donc, on va continuer comme ça autant que possible. Voilà.
Et vous, Liliane Pina, vous avez été récompensée par le prix littéraire du Morvan, parce que les prix littéraires du Morvan sont tout de même un peu dépendants de l'Académie du Morvan.
Alors, pas uniquement. L'Académie est une des associations, ou une des institutions aussi, qui participe au financement du prix. Voilà. Donc, ce prix est décerné tous les deux ans. Donc j'ai eu le prix en 1998, il était décerné en Côte d'Or, à Liernais, pour un travail universitaire, donc ma thèse de doctorat, sur les mentalités religieuses dans le Morvan à la fin du 19e siècle. Il y a eu d'autres bénéficiaires, Anne-Marie Laffay pour son travail universitaire sur Autun, André Paris pour ses travaux sur la Révolution dans le district de Château-Chinon, etc. Donc, maintenant, il y a deux prix, en fait, dans le même. C'est-à-dire, on a un prix littéraire qui récompense des romans ou des œuvres de création. Et puis, il y a un prix scientifique qui récompense plutôt des ouvrages de valeur scientifique, des études historiques ou autres, sur le Morvan.
Et cette année, les prix littéraires du Morvan ont été décernés à la Maison Jules Roy, et notamment le prix Marcel Vigreux a été décerné à Jean-Yves Bourcier pour un travail sur un bûcheron du Morvan, à l'origine des premiers maquis communistes.
Voilà, c'est ça. Alors, le prix Marcel Vigreux, c'est donc, pour ceux qui ne savent pas, le prix scientifique. C'est le nom du prix scientifique du Morvan.
Un petit mot rapide sur le sommaire du dernier bulletin de l'Académie du Morvan.
Alors, bien sûr, d'habitude, nos bulletins sont monothématiques. Et pour la première fois, on a voulu faire un bulletin polythématique dans lequel il y a 4 articles moyens, disons 10-15 pages, parce que parfois, on a des choses intéressantes à dire, mais c'est trop court pour un bulletin. Alors, on a fait une expérience. Donc, je peux vous lire le sommaire des 4 articles. Un article de Madame Françoise Dumas, qui est maître de conférence de linguistique à l'Université de Bourgogne, et qui a fait un article sur le celticisme de Vincenot. Voilà, celticisme. On a un article de Sébastien Lambert, qui est bien connu à Saulieu. Il est président des Amis du Vieux Saulieu à l'heure actuelle, qui est professeur d'histoire géo près d'Auxerre, je crois, et qui a fait un article sur l'industrie avalonnaise. André Paris, donc, qui avait été un des bénéficiaires du prix, ancien élève de l'École normale supérieure Saint-Cloud, qui est morvandiau, il habite Corancy, bon, il est très âgé maintenant, il a fait donc beaucoup de travaux, en particulier sur la période révolutionnaire, mais là, c'est un article sur l'outillage agricole, avec beaucoup d'illustrations, et puis Liliane Pinard, donc, qui a fait un article qui s'intitule « Regard sur le Morvan et les morvandiaux », en essayant, peut-être vainement, d'ailleurs une fois de plus, de battre en brèche des idées reçues, en particulier l'idée selon laquelle les morvandiaux descendraient des Éduins et qu'il n'y aurait pas eu de mélange ou de mouvement dans le Morvan. Alors, je ne sais pas si ça aura de l'effet pour changer les idées qu'on se fait sur les morvandiaux, mais bon, c'est un article qui a été bien documenté. On verra bien ce que ça donnera au point de vue des critiques ou des appréciations.
À l'instant, c'était Liliane Pinard pour évoquer l'Académie du Morvan. On se retrouve dans une poignée de minutes avec deux autres auteurs. Le paysan écrivain morvandiau Jean-Charles Couny, qui signe un nouveau roman, un polar, intitulé Morvan Terminus. Et nous entendrons le jeune et talentueux photographe morvandiau d'adoption Jean-Christophe Zounia pour son recueil de photographies, et il nous parlera aussi de Pompon l'écureuil. C'est à suivre, en tout cas bien au chaud chez vous, c'est Wagon Livre, et nous vous tenons compagnie jusqu'à 22h sur Radion, bien sûr.
À tout juste un an, premier pas posé, on marche un instant avant de tomber. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé, il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés, les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Tomber chaque fois aujourd'hui, après. Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès. Au milieu des autres, on est tous suspects. C'est à qui la faute qui nous a poussés. On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber. C'est toucher du bois, parfois même prier. Et puis ça revient, ça envoie valser les fous et les rois, le pays entier. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Mais nous sommes toujours debout, toujours debout. Alors bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi. Mais malgré tout, on recommence. D'abord un pas, ensuite un sens. Et puisqu'un jour on se relève, que tout combat finit en trêve, on peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort. Car nous sommes toujours debout, toujours debout. Oui, nous sommes toujours debout, toujours debout. Ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Depuis c'est le vide que tu as laissé, la vie qui décide de me relever.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Rencontré à la 9e édition du Salon du Livre de Saulieu, Jean-Christophe Zounia est originaire de Marseille. Il s'est depuis quelque temps installé dans une maison isolée dans la campagne morvandelle et il a publié un superbe recueil de photographies sous le titre « Regard sur le Morvan » qui connaît encore un très grand succès en maison de la presse et en librairie. Jean-Christophe Zounia est aussi le créateur d'un groupe sur Facebook qui a pour nom le Morvan en photo, un groupe qui rencontre un immense engouement. Jean-Christophe Zounia.
On est à 7500 membres, donc ben oui, c'est grâce à cette page-là que, enfin, c'est plutôt un groupe et qui permet de, à chacun de ben, soit voir des photos du Morvan, soit connaître des informations, soit ben, les partager. Donc quelqu'un qui se balade par exemple aujourd'hui à Saulieu ou au Salon du Livre, qui va visiter la basilique, il a la possibilité de poster ses photos en temps réel ou plus tard. Et chacun peut les voir et commenter. Et le but, c'est de mettre en valeur ce qui se passe dans le Morvan et de mettre en valeur le patrimoine morvandio.
Alors Jean-Christophe, vous avez rejoint donc l'Académie du Morvan.
Oui, d'ailleurs, grâce à Liliane qui m'avait ben, gentiment proposé ben, ça. Donc ben, là, pour le moment, j'ai participé quelques fois aux matinées, dans la mesure du possible. J'ai participé à la dernière balade là, qui a été... Donc à Montréal et à Noyers-sur-Serein, qui est, c'est des lieux vraiment magnifiques. Et après, c'est en fonction aussi de ce que je peux apporter à l'académie que je me mettrai à leur disposition. Mais j'ai pas envie de brusquer les choses et puis voilà, j'attends d'être encore un peu plus légitime dans la tête, dans la mentalité des Morvandiaux, pour pouvoir m'imposer entre guillemets, en tout cas de mettre ma patte sur ce qu'on peut faire pour essayer de rajeunir l'académie.
Alors il y a un petit animal qui a bouleversé votre vie, Jean-Christophe Zounia, c'est Pompon, votre ami l'écureuil, et qui d'ailleurs est le sujet d'un ouvrage que vous vendez ici au Salon du Livre de Saulieu, en collaboration avec une amie dessinatrice, illustratrice.
Oui, une jeune dessinatrice, Estelle Kittard, qui a gentiment accepté de faire les illustrations au crayon de Pompon pour les scènes donc avec les enfants.
Alors, il faut expliquer votre rencontre avec Pompon.
La rencontre avec Pompon, c'est que je voyais Pompon, donc l'écureuil qui n'avait pas de nom au début, venir manger, ramasser les noix qu'il y a dans mon jardin. Et je donnais à manger aux oiseaux dans une petite brouette remplie de graines de tournesol. Et un beau jour, je vois Pompon, je ne l'appelais pas comme ça, mais en train de manger, il était carrément assis sur la brouette en train de manger les graines de tournesol des oiseaux. Et donc déjà j'étais étonné de savoir qu'un écureuil mange des graines de tournesol, je ne savais pas, je l'ai appris. Puis petit à petit, je lui donne une noix, je lui mets dans la brouette et puis voilà, il s'est habitué à venir. Et moi petit à petit, j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre pour avoir accès, le voir sans frontières au niveau de la fenêtre de la vitre. Au début il s'en allait et après petit à petit je l'habituais au bruit, je tapais au carreau quand il était en train de manger. Il s'en allait au début et puis de moins en moins et puis plus du tout. Et j'ai réussi après à ouvrir la fenêtre, à le caresser, mais c'est de manière aléatoire. Il se laisse caresser quand il veut. C'est quand il veut, il n'y a pas que lui, il y a Athéna. Et maintenant je vois un bébé, Hera, c'est une fille. Et qui, on voit que c'est un bébé à la tête. C'est mignon quoi. Donc c'est hyper attachant et puis on s'y attache quoi. On s'y attache comme un animal domestique, alors que il fait sa vie quoi, hein. Il n'est pas apprivoisé dans le sens où il est chez moi, il fait sa vie, mais on s'habitue à le voir et puis voilà, et ça fait du bien. Du coup je me suis servi de ce petit animal pour sensibiliser les enfants à la nature.
Alors on peut voir quelques extraits du livre sur votre site internet, on peut le commander,
on
également
peut le commander,
on peut
voilà.
Admirer vos magnifiques photographies. Vous rappelez les références de votre site internet, Jean-Christophe ouais. Zounia?
C'est www.lemorvanenphoto.com et il n'y a pas de S à photo, lemorvanenphoto.com.
Merci Jean-Christophe. Alors lui, c'est pas tellement les écureuils qu'il passionne, son métier c'est l'élevage des bœufs, des charolaises et des charolais. C'est notre paysan écrivain Jean-Charles Couny, que je trouve d'ailleurs aujourd'hui à cette fête du livre de Saulieu un peu déprimé. Bonjour Jean-Charles, que se passe-t-il?
Les choses vont vraiment très mal. Non, mais... Même mon intervieweur préféré n'a pas eu le temps de lire mon livre, alors je suis vraiment...
Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, Jean-Charles, j'en suis navré.
Non, il y a eu des problèmes de poste que je ne pourrais pas expliquer ici. Voilà, mais je ne suis pas déprimé, simplement, ça fait bientôt... J'ai commencé en 2004, donc ça va bientôt faire 13 ans que j'ai commencé, là. J'ai cette année paru mon 11e livre, 11e roman, j'ai écrit un livre de souvenirs, enfin je suis à 14 livres, et puis c'est vrai que je voudrais arrêter un petit peu, me recentrer un peu sur l'écriture, parce que voilà, alors, je voudrais écrire autre chose.
Les salons, ça use un peu les auteurs, ça mobilise un petit peu, ça éloigne de la vie familiale.
Pas beaucoup, c'est vrai que ça mobilise beaucoup, mais après... C'est vrai que les salons, il faut reconnaître, il faut dire les choses, même si on est dans un salon, là, il y a quand même de moins en moins de monde dans la plupart des salons, donc c'est vrai que ça mobilise beaucoup d'énergie, des fois beaucoup de préparation pour pas grand-chose, hein. D'autant que moi, je vends quand même pas mal en librairie, et puis c'est vrai que j'aimerais, j'ai fait une chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, j'ai écrit un livre sur ma généalogie, sur mes ancêtres. C'est pas quelque chose qui est très vendable, en plus il est très cher, mais j'ai écrit, disons, ce qui me faisait plaisir, quoi. Et j'aimerais bien pouvoir continuer à écrire ce qui me fait plaisir, Bon, alors j'aurais peut-être quelques lecteurs qui seront déçus, mais bon, je voudrais écrire pour le théâtre. J'ai déjà écrit deux pièces, bon, ils n'ont pas encore été jouées. C'est des choses qui m'intéressent. Moi, je dis pas que j'ai fait le tour, mais mes histoires agricoles, là, bon, il faudrait que je puisse en sortir un petit peu là. Surtout que bon, je suis dans le métier toute la semaine, toute l'année, donc voilà.
Alors, un petit mot sur justement Morvan Terminus, ah oui, le dernier roman qui est un polar.
Terminus, non, oui. Non. Non, ben, ce Terminus, bon, c'est une jeune femme, une jeune marcheuse qui vient apparemment de la Somme, qui est retrouvée morte sur un chemin de grande randonnée. Elle est retrouvée par un paysan, évidemment, qui vient voir ses vaches. Et bon, ce paysan commet beaucoup de maladresse, même si, bon, voilà, donc il fait. Il est tout de suite soupçonné. Donc après, voilà. Donc l'enquête commence. Elle se poursuit. Une partie dans le Morvan, mais aussi dans le pays d'origine de la jeune femme qui est la Somme. Alors c'est assez marrant parce que je le dis comme ça parce que c'est une anecdote. Mais souvent, moi, je me sers beaucoup. C'est la généalogie. Mon premier livre, c'était la généalogie qui m'a amené à l'écriture. Et souvent, quand je cherche des noms de famille ou des noms de lieux, j'utilise la généalogie. Donc, ma jeune femme, là, je la fais venir de Droménil, dont des ancêtres du côté de ma mère sont venus. C'était maçons de Droménil. Ils sont partis en 1600 et ils sont devenus entrepreneurs du roi après. Donc, voilà. Donc, et ils venaient de Droménil. Et alors, dans leurs ancêtres, il y en avait un qui avait épousé une Ancelin. Donc, j'ai appelé ma jeune femme, Marie-Ancelin, voilà. Mais c'est une chose que je fais souvent comme ça. Mon footballeur, il s'appelait Raphaël, parce que j'avais des ancêtres Raphaël qui étaient du Tarn, voilà. Voilà, donc la boucle est bouclée. Moi, c'est vrai que la généalogie m'a amené à l'écriture, mais j'y reviens tout le temps.
Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion. Vous avez successivement pu entendre Jean-Christophe Zounia, dont vous pouvez retrouver les livres en commande sur son site www.lemorvanenphoto.com. Et le roman de Jean-Charles Couny, Morvan Terminus, est lui disponible dans toutes les bonnes librairies ou maisons de la presse de Bourgogne. On peut aussi commander le roman de Jean-Charles Couny sur son site internet. Il suffit de pianoter www.jeancharlescouny.com. Je rappelle d'ailleurs au passage que Jean-Charles Couny avait reçu le prix littéraire du Morvan à Saulieu en 2010. Pause musicale, et c'est Dominique, juste après, qui montera à bord de Wagon Livre pour nous présenter ses dernières parutions à destination du jeune public. Bonne soirée, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Bercé par la vague blonde de tes cheveux comme une onde, je crois. Volé au-dessus du monde, mon cœur bat sous tes secondes pour toi. Quand tu pars souvent, je tremble que ma vie se désassemble sans toi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Te parler d'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile. Tu vois, dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Les mots ne veulent rien dire. Peut me suffire de toi. Tes yeux bleus me font rougir, mieux qu'un mot pour me prédire ma joie. Si un jour tu dois partir, je garderai ton sourire en moi. Pour un peu, j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. D'amour, ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile, tu vois. Dire des mots d'amour comme les autres filles, ça je ne sais pas, tu vois, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. pour un peu j'oserais même te dire que c'est toi que j'aime, tu vois. Ce n'est pas moi.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Lors des Salons du Livre de Saulieu, chaque année, nous retrouvons Dominique, auteur indépendant, et il vient toujours vendre et vanter les mérites de ses livres jeunesse. Alors, d'où vient Dominique? Qui est-il? Quel est son dernier titre? Réponse dans le reportage que vous allez entendre. Dominique à notre micro.
Je suis un petit Lyonnais, comme on dit, un petit gaune. Ça fait 10 ans que j'écris pour les enfants, puisque au départ je suis éditeur. Je suis éditeur généraliste depuis 20 ans. Et puis un jour, comme on dit, je suis tombé dans la marmite de la magie de la littérature jeunesse, avec un premier livre qui m'a donné l'envie de continuer, puisque le lecteur a été au rendez-vous. Eh bien, je crois que cette osmose qui se passait entre le lecteur et moi ne pouvait que fonctionner, cette fameuse magie. Surtout pour Halloween, hein, dans la marmite de la sorcière, et non pas de la fée. Et cette fameuse sorcière s'était penchée un peu peut-être sur mon berceau pour me dire plus tard, tiens, Dominique, c'est dans le livre pour enfants et tout petit que tu seras le mieux. Donc je suis bien, voilà. Je suis bien, et pour preuve, c'est que 10 ans après, je suis à plus de 25, 26, 27 titres, je ne sais plus, dont le dernier, de la série Petit Chaton. D'ailleurs, je crois que ce qui est intéressant, c'est parfois se fidéliser avec un personnage, chose sur laquelle je ne voulais pas trop le faire parce que je ne vais pas développer parce qu'on en aurait pour une heure et on n'a que 5 minutes, mais c'était quelque chose où je rebutais à dire, bon, faire vivre un personnage, j'aime bien parce qu'en fait on s'attache, et je me suis attaché à Petit Chaton et je lui ai fait vivre déjà 3 belles aventures, donc le troisième qui vient de sortir qui s'appelle On a cassé la balançoire, donc petite amusette pour les tout petits, on aurait cassé la balançoire, c'est le drame, et qui a donc osé casser c'est la balançoire, si personne s'est dénoncé, etc. Je ne raconterai pas la suite, bien sûr. Donc c'est ce petit personnage où j'ai quand même déjà écrit une dizaine de titres qui sont donc en préparation. Les 3 premiers titres sont donc déjà édités. Et puis les gens s'y attachent. Et ce qui est amusant, enfin même une reconnaissance de la part du lectorat, c'est que dorénavant, eh bien, ils essaient de savoir où je suis, dans quel salon je suis, pour venir me voir et acheter la suite. Et j'ai même des gens qui viennent en mission, parce qu'ils sont en mission pour acheter le dernier livre de Dominique. Et la dernière en date où j'ai eu vraiment plaisir, c'est au Marthe de Verre, à côté de Clermont, où j'ai une personne qui est venue, enfin un couple exactement, qui est venue acheter pour la fille. Et je lui dis, mais elle a quel âge maintenant? Elle a 20 ans. Mais, eh ben, depuis 10 ans, le premier livre qu'elle avait acheté, c'était Albert le Téméraire, qui était pour les grands. Eh bien, maintenant, elle veut absolument continuer à acheter toute ma collection. Une reconnaissance à long terme, et ça fait plaisir. Donc le dernier de « On a cassé la balançoire », que je remets bien sûr à Radio Yon, qui pourra le lire tranquillement entre 2 émissions, eh bien, raconte donc cette petite histoire qui arrive comme d'habitude à un des jouets de la chambre de Nadège. Et puis, allez, ça finira bien. Chien malin est toujours présent, gros oiseau bien sûr, petit chaton, c'est lui quand même le personnage central. Et puis, on a un autre personnage qui est là, mais je ne peux pas le dire parce que je dévélerai tout. Donc l'aventure continue, nous sommes déjà en préparation de Cancan le caneton polisson, qui raconte un peu les histoires que font les enfants, c'est-à-dire le petit polisson qui taquine le grand. Pareil, j'en dirai pas plus. Et puis le sapin de Noël. Le sapin de Noël qu'on devait faire paraître cette année, mais comme vous le savez tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes dans une grande détresse et de crise. Nous n'avons pas pu faire sortir le sapin de Noël. Mais ne vous inquiétez pas, il arrivera l'année prochaine.
À l'instant, c'était Dominique. C'était le 30 octobre dernier, lors de la 9e édition de la fête du livre de Saulieu. Dans quelques minutes, nous vous donnerons des nouvelles des éditions de l'Armançon, juste après la pause. Co-gérant d'ailleurs de cette maison d'édition bourguignonne, créée en 1987 par Gérard Gauthier et son épouse, Marc Ray nous présentera un nouveau roman. Il s'agit du « Diamant du fleuve orange » de Pierre-Paul Stine.
If you're not the one, then why does my soul feel glad today? If you're not the one, then why does my hand fit yours this way? If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. I don't want to run away, but I can take it. I don't understand. If I'm not made for you, then why does my heart tell me that I am? Is there any way that I could stay in your life? If I don't need you, then why am I crying on? Sound in my head. If you're not for me, then why does this distance maim my life? If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why it's so far away, but I know that this much is true. We'll make it through, and I hope you are the one I share my life with. And I wish that you could be the one I die with. And I pray in your the one I build my home with. I hope I love you all my life. So strong that it takes my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is by your side.
Les éditions de l'Armançon sont incontournables en Bourgogne. Installée à Précy-Soutines, en Côte d'Or, cette importante maison d'édition qui fêtera ses 30 ans en 2017 vient de faire paraître une nouveauté. C'est un roman de Pierre Polstine qui a pour titre « Le diamant du fleuve orange ». Et c'est le co-gérant des éditions de l'Armançon, Marc Ray, qui nous le présente.
Le diamant du fleuve orange, c'est un roman policier de Pierre Polstine, dans toutes les bonnes librairies et qu'on peut commander sur le site de l'Armançon également. Il n'y a rien de tel qu'un roman policier pour rentrer dans des univers. Et là, on est dans un double univers, l'univers du vin, avec plutôt le sud de la Bourgogne, le nord du Beaujolais, et donc un univers assez bien connu des Bourguignons, simplement les querelles de possession du domaine, enfin des choses un peu glauques de ce côté-là. Aussi, et on verra en lisant le roman un monde que j'ai découvert et qui est très intéressant, des diamantaires à Anvers, à Londres, parce que à travers ces viticulteurs, on cherche aussi un diamant perdu et qu'on va essayer de retrouver, qui est un diamant absolument extraordinaire. Et pour en remettre une couche sur le sujet, le liant de l'ensemble de ça, c'est une histoire terrible qui s'est passée pendant la guerre avec des réfugiés juifs, et qui cimente une double quête. Là, je ne vais pas trop en dire, mais d'une part, la quête d'un propriétaire de domaine viticole sur ses ancêtres, et d'autre part, l'enquête de deux malfrats, dont les parents étaient malfrats aussi, et qui ont trempé dans des affaires extrêmement louches pendant la guerre.
À l'instant, c'était Marc Ray, le co-gérant des éditions de l'Armançon, qui nous présentait une des dernières nouveautés des éditions de l'Armançon, Le Diamant du Fleuve Orange, un roman de Pierre Polstine. Ainsi s'achève ce compte-rendu de la 9e fête du livre de Saulieu, qui s'est tenue, je le rappelle, les 29 et 30 octobre dernier. Je vous rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de noter les références des ouvrages dont il a été question ce soir, vous pouvez les retrouver aisément sur le site d'archives de l'émission via internet www.yannickpetit.fr. En quelques clics, c'est très facile et on a accès à plein d'informations et à toutes les plus anciennes émissions Wagon Livre diffusées sur Radion depuis novembre 2010. Mercredi prochain, 14 décembre, toujours à 21h sur le 90.5 ou sur radion.fr, nous diffuserons l'intervention que Laurent Grisel avait faite à la Maison Jules Roy à Vézelay le 9 septembre dernier pour présenter son dernier livre, Journal de la crise 2007. On vous proposera donc en diffusion cette intervention de Laurent Grisel. C'est mercredi 14 décembre prochain à 21h. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de Radion. Merci de votre écoute, de votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.